Radio Okapi.
Le journal avec Babel Pong.
Okapi.
Des experts congolais et zambiens sont à leur deuxième jour de travaux à Lubumbashi. Ils cherchent ensemble comment financer les travaux de démarcation des frontières entre les deux pays au niveau des lacs Tanganyika et Mwero, ce qui permettra de mettre fin à certains différends frontaliers entre ces deux pays. Nous serons en Nord Kivu avec le retour dans l'armée nationale de près de 350 militaires FARDC du 211e bataillon. Ces militaires avaient déserté l'armée en décembre dernier pour rejoindre les FDLR. Ils ont été accueillis hier à Biyambwe au cours d'une cérémonie dirigée par le commandant FARDC de cet axe. L'éclairage public reste un problème à Kinshasa. La majorité des grandes artères demeurent dans le noir et ce, malgré l'attribution de ce marché de l'éclairage à certaines entreprises comme Sonades, Parisi ou Malta Forest. Jacques-Yves Onlima nous fait le point dans ce journal. Bonjour à tous. Deuxième jour ce mercredi de la 19e session de la commission spéciale mixte d'experts RDC Zambie. Au cours de ces assises de Lubumbashi, les deux parties doivent chercher des sources de financement pour concrétiser la démarcation des frontières entre les deux pays. Le but final est de mettre fin aux différents frontaliers enregistrés au niveau des lacs Tanganyika et Mwero, un dossier vieux de plus d'une décennie, Jean Gandou.
Ce mercredi, les participants vont adopter le projet de budget proposé lors de la 18e session tenue à Kinshasa en juillet 1998. Ce budget n'a pas été révélé. Toutefois, Célestin Tshibalonza, directeur de cabinet au ministère de l'Intérieur et chef de la délégation congolaise, a indiqué que ce budget sera revu afin qu'il soit adapté aux nouvelles réalités sur terrain et aux réalités socio-économiques mondiales. Pour lui, les participants doivent aussi chercher des sources de financement pour mettre fin à ce dossier qui n'a que trop duré, ce qui offrirait aux deux pays une frontière définitive et tangible et qui permettrait aux populations frontalières d'être correctement fixées sur les limites réelles des terres entre les deux États. Pour sa part, le délégué de la partie zambienne, Evince Tshibirindi, secrétaire général adjoint à la présidence zambienne, a émis le vœu de ne pas voir le débat sur la délimitation des frontières réouvert au cours de ces assises. La fin des travaux est prévue pour ce jeudi. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Le Rwanda, la RDC, le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés devraient signer en principe ce mercredi à Kigali un accord tripartite visant un nouveau programme de rapatriement volontaire des réfugiés rwandais et congolais vivant dans chacun de ces deux pays voisins. Les travaux des experts débutés hier dans la capitale rwandaise se sont poursuivis jusqu'au tard dans la soirée. Au terme de l'accord, au moins 53 000 réfugiés congolais vivant dans trois camps au Rwanda devraient regagner volontairement la RDC, alors que le Rwanda s'attend à un retour d'au moins 20 000 de ces réfugiés civils vivant encore en RDC depuis 1994. Pour l'instant, les travaux risquent de prendre du retard sur les calendriers initiaux en raison de l'absence sur place du ministre congolais de l'Intérieur qui est toujours attendu à Kigali. Autre sujet d'actualité, 64 Congolais originaires de la localité de Bouda ont trouvé refuge depuis deux mois dans la localité de Togo en terre centrafricaine. La localité de Bouda est située dans le groupement de Bosobolo, secteur de Bili, à plus de 200 km de Guadolité dans l'Équateur. Selon l'ONG ASDH, Action pour la sauvegarde de la dignité humaine qui donne l'information, ils craignent pour leur sécurité. Ces paysans avaient fui le 18 décembre dernier les exactions des militaires FARDC qui étaient intervenus dans une dispute entre un homme et une femme issus de la famille du chef du groupement. Depuis qu'ils ont traversé la rivière Ubangi, ils n'osent pas rentrer et ils vivent en République centrafricaine dans des conditions difficiles. Antonio Sumba, activiste de droits de l'homme de l'ONG ASDH, déplore la situation. Il est joint au téléphone par Béatrice Nabindi.
Ils sont venus chez moi pour me poser des problèmes en disant qu'ils sont menacés par des militaires suite à des réquisitions illégales des chefs de groupement en place contre eux. Et les militaires sont allés sous l'ordre des chefs de groupement qui les ont torturés jusqu'à même. On a vécu aussi quelques têtes de ces victimes. Mais vraiment pour cet cas, le fait terrible, c'est parce que les gens de ces milliers ont traversé clandestinement suite à des menaces des chefs de groupement et les militaires à leur endroit. Même moi, j'avais déployé de toutes les manières pour les trouver et les faire revenir dans notre territoire. Ils ont dit que s'il s'agit de revenir dans notre territoire, au moins ils choisiront un autre groupement.
Le commissaire de district intérimaire du Nord Ubangi, Jean-Pierre Tengouti, dit ne pas être au courant de cette situation. Toutefois, ajoute-t-il, il compte s'en acquérir auprès de l'administrateur du territoire de Bossobolo. Et puis, cette autre nouvelle qui vient de nous parvenir, il n'y a jamais eu de conflit entre le gouvernement congolais et la MONUC. Déclaration de Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, dans une conférence de presse qui vient d'animer dans son cabinet. Lambert Mende tenait à éclairer l'opinion publique face à un prétendu retrait du soutien de la MONUC au FRDC dans le cadre de l'opération Amanileo au Kivu. Les détails dans nos prochaines éditions. Les hommes du 211e bataillon militaire du Nord Kivu qui avaient déserté les FRDC le 6 décembre dernier viennent de regagner les rangs de l'armée nationale. Près de 350 militaires FRDC avaient rejoint les FDLR dans la zone de Masisi. Ces soldats qui avaient déserté avec leur commandant, le colonel Emmanuel Sengiyumwa, ont été accueillis hier à Biambwe, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Goma, dans les territoires de Masisi. C'était au cours d'une cérémonie officielle dirigée par le colonel Chuma Balumiza, commandant de cette. Le point à Goma avec Rosalie Zawadi.
Ces éléments FRDC, dont plusieurs officiers, se sont rendus le 14 février après s'être désolidarisés du colonel Sengiyumwa et les FDLR dans les secteurs de Walikale. Leur reddition a été rendue possible à la suite des opérations militaires menées contre les FDLR dans la région de Walikale, ainsi qu'à la sensibilisation, a indiqué le major Kazarama de la cellule de communication des opérations à Manileo. Au moins 250 éléments parmi ces rendus étaient physiquement présents lors de la cérémonie officielle à Biambwe, à plus de 50 km au nord-ouest de Goma, dans les territoires de Masisi, tandis que 100 autres sont restés dans des unités FARDC sur place à Biambwe. Pour le major Vianney Kazarama, aucune sanction ne sera réservée à ces militaires. Pour lui, leur retrait a été orchestré par leur commandant. D'après la même source, le colonel Sengiyumwa est resté avec quelques hommes aux côtés des FDLR dans les secteurs de Ntoto en territoire de Walikale. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Cinq officiers supérieurs des FRDC ont été transférés hier de la prison centrale de Mbujimayi à celle de Makala à Kinshasa. Ces officiers sont poursuivis pour détournement et tentative de détournement des soldes militaires et des invalides de la 5e région militaire. Chris Moukand nous en dit plus.
Ces officiers des FRDC sont poursuivis pour détournement des 11 millions de francs congolais destinés à la paix du mois d'octobre 2008, des militaires invalides et des veuves des militaires. Dans le lot, on retrouve le lieutenant-colonel Zek Pierre Kapende, directeur de la DOSM, la direction des œuvres sociales militaires, le lieutenant-colonel John Chimanga, le capitaine Efongé Lomboto et le lieutenant Mbilika Lutumba. Le réquisitoire du ministère public du 10 août avait requis 10 ans de servitude pénale pour 7 de 8 officiers et le chef de la division provinciale des affaires sociales. Également le renvoi des forces armées pour les militaires. Le 20 août, la cour militaire a rendu un arrêt qui a quitté tous ses prévenus, faute des preuves de détournement. Mais cet arrêt a été immédiatement frappé d'appel. Le 21 août, le ministère public a déposé l'acte de son appel à la haute cour et le dossier transféré à l'auditorat supérieur. Pour le ministère public, le procès était mal jugé. Notons que 3 autres officiers et le chef de la division provinciale des affaires sociales concernés également dans ce dossier sont en fuite. Mbujimayi, Chris Moukan. Radio Capi.
L'éclairage public à Kinshasa, défi majeur pour les autorités. Le gouvernement provincial de Kinshasa, la Société nationale d'électricité SNEL, en collaboration avec certaines entreprises de la place, notamment Sonades, Société nationale des services, Malta Forest et Parisi, s'était assigné comme objectif d'éclairer une dizaine des grandes artères de la capitale. Ainsi, Sonades devrait s'occuper de l'éclairage public de 10 avenues, Malta Forest au moins 6, tandis que Parisi devrait éclairer toute l'avenue Kassavubu, traversant pratiquement 5 commune. Près de 2 ans après, quel est l'état de lieu de l'éclairage public à Kinshasa et qu'est-ce qui est fait pour assurer la maintenance de ces ouvrages? Jacques Fonlima s'est penché sur cette situation en visitant toutes les avenues concernées par ces travaux.
Les avenues Uileri, Victoire, Sefou, Kimwenza, Roi Baudouin, Ouganda, la deuxième entrée d'Ili ainsi que les boulevards Sendwe, Tchatchi, Kassavubu et Triomphal, la route poids lourd et bypass, voici le gros des avenues concernées par les travaux de l'éclairage public. Sur près de 130 poteaux installés sur Uileri, au moins 18 poteaux ne s'allument plus. Si sur Victoire, l'éclairage public ne souffre pas encore de failles, sur Sefou, entre Lemba Foire et Lemba Terminus, il n'en est pas le cas. Ici, l'éclairage public n'est pas régulier. Le délestage passe par là. Quant aux autres avenues, les travaux n'ont pas encore débuté. Sendwe et Triomphal, par exemple, sont toujours dans le noir. Là, Sonades procède encore au démontage des anciens poteaux. Il en est de même de la deuxième entrée d'Ndjili. Par contre, les travaux effectués par Malta Forest ne sont plus visibles. Aucun poteau ne s'allume depuis des mois sur la route poids lourd. Tous les câbles d'alimentation ont été volés. Entre Bypass et Rond-Point Gaba, sur les 90 poteaux implantés, 20 seulement s'allument. L'avenue Université, dans la boucle Rond-Point Gaba et Boulevard Saint-Doué, sur 118 poteaux, 30 seulement sont allumés, avec des intervalles parfois de plus de 20 poteaux. De son côté, l'avenue Kassavubu subit des délestages. Les poteaux compris entre Kitambo Magasin et la station Mankampagne, ainsi qu'entre Bayaka et Bongolo, ne s'allument presque plus. Une situation qui prouve à suffisance que la maintenance de l'éclairage public bat de l'aile à Kinshasa.
Terminons par cette triste nouvelle, notre confrère Léon-Jacques Mwamba de Radio Kapi Kisangani n'est plus. Il est décédé hier après-midi au centre médical de Kinshasa, hospitalisé depuis 3 semaines au CMK et cet été à l'âge de 68 ans. Avant d'exercer le métier de journaliste à Radio Kapi, il avait été enseignant, directeur d'école et journaliste sportif à la radio IBP-FM à Kisangani. Je vous propose de suivre un extrait de l'un de ses derniers reportages de ce Léon qu'on appelait affectueusement Papa Léon à Radio Kapi.
Selon le chef du centre administratif de Faradier, 14 000 déplacés répartis dans 6 sites se trouvent actuellement au centre-ville de Faradier. Ils n'ont presque rien à manger. Le programme alimentaire mondial PAM et d'autres ONG ne les ont pas assistés depuis 3 mois. Lado Pagadi ajoute que cette situation affecte déjà la population du centre de Faradier qui les avait accueillis. Léon Jacques Mwamba, Dungu, Radio Kapi.
Cette triste nouvelle clôture ce journal que vous pouvez retrouver sur votre site www.radiokapi.net.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.